Didier Durmarc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Didier, aujourd'hui. Vous êtes Rouennais, vous habitez Rouen.
C'est ça.
Vous êtes professeur de philosophie.
C'est ça également.
À Louviers.
À Louviers, au lycée Les Fontenelles.
Lycée Les Fontenelles. On va parler de vous, Didier, de votre métier. On va parler également de vos ouvrages, de vos livres, de vos œuvres. Vous avez écrit pas mal de choses. Vous avez écrit 3 pièces de théâtre.
C'est ça, j'ai écrit 3 pièces de théâtre, publiées en 2002 aux éditions Texte et Prétexte. Ces 3 pièces étaient regroupées sous un titre général, Ferry pour une autre fois, c'est Louis-Ferdinand Céline.
Ah oui,
beau lapsus. J'ai publié également 2 romans. Le premier s'intitulait Moins que rien en 2006, et le second s'intitule La liseuse. Et il est sorti dans une maison d'édition hébroïcienne, donc près d'ici, une maison d'édition qui s'appelle Le Rire du Serpent.
3 pièces de théâtre, 2 livres, Moins que rien, La liseuse, le dernier s'appelle Philosophie de la Shoah.
Oui.
C'est un titre qui a de quoi surprendre.
C'est un titre qui fait peur, déjà. Philosophie en soi, ça repose sur toute une image... mentale, plus ou moins précise, plus ou moins stéréotypée. Et effectivement, la Shoah, qui fait référence à un terme hébreu, qui renvoie à l'extermination des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a finalement deux mots qui font peur, mais qui en fait renvoient à un contenu relativement simple du livre. La question centrale du livre, c'est de savoir en fait... ce qu'on appelle la Shoah, l'extermination des Juifs d'Europe, donne à voir quelque chose de l'homme, de l'identité humaine, de la société actuelle, de ce qu'on appelle la modernité, et même, finalement, amène à repenser ce qu'on appelle en philosophie la métaphysique, c'est-à-dire simplement la question de l'existence de Dieu.
Parlez-moi de vous et de vos élèves. Ils ont quel âge, vos élèves, d'ailleurs, à Louviers, Didier ?
Alors, mes élèves ont entre... 15 et peut-être 20 ans pour ceux qui sont le plus en retard, sachant que je m'occupe également d'un atelier théâtre. J'ai la chance aussi d'avoir des élèves de seconde et de première, donc je les salue. Et bien évidemment des élèves de terminale pour la philosophie.
La philo, c'est pour la terminale.
La philo, c'est essentiellement pour la terminale. Il existe des établissements où il y a une initiation philosophique en classe de première. Mais ces initiations sont directement décidées par le chef d'établissement et font partie de ce qu'on appelle les projets pilotes des établissements. Donc tout dépend de l'établissement dans lequel on va apprendre ces cours.
D'accord.
Et on prépare le baccalauréat.
Et alors Didier, dans le cadre de vos cours de philosophie à ces élèves qui sont en terminale, est-ce que vous abordez des sujets sociétaux, des sujets qui nous touchent? En ce moment, on parle beaucoup de la liberté d'expression, on parle beaucoup du radicalisme, on parle du terrorisme. Vous abordez ces questions-là avec eux et vous choisissez l'angle de la philosophie?
Alors, oui, j'aborde ces sujets, ils sont demandeurs. L'actualité récente les a beaucoup troublés. On s'efforce quand même d'aborder ces thèmes, non pas sous le sceau de l'émotion, uniquement sous le sceau de l'affect, donc sous le sceau de la réflexion, vraiment en réfléchissant sur ce qui se joue, pourquoi la liberté d'expression, si elle a des limites, finalement ne relève plus de la liberté.
Ça fait un bon sujet, ça.
Voilà. À partir de quand on peut dire que la liberté des uns doit être limitée par la liberté des autres. Donc ce sont des sujets passionnants, ce sont des sujets assez polémiques, mais qui demandent véritablement une clarification philosophique. Effectivement, les élèves, sous prétexte que parfois des caricatures soient susceptibles de choquer, certains font rapidement des raccourcis qui peuvent justifier l'intolérance et la violence. Il faut leur rappeler que précisément la liberté de penser repose nécessairement sur une absence de limite et qu'on peut être légitimement ou illégitimement choqué du point de vue de sa sensibilité par des caricatures, par exemple, sans pour autant justifier la violence. Sinon, effectivement, c'est très très rapidement le recours au fanatisme, à la guerre de tous contre tous et, ouais. Et à la guerre civile, très simplement.
On a entendu quelques profs s'exprimer après les attentats que nous avons connus, notamment celui de Charlie Hebdo, les prises d'otages. On a entendu parfois que des élèves refusaient de faire une minute de silence. Vous avez été concerné par ce type de problème ?
Oui, on peut avoir des réflexions étonnantes, voire choquantes. Ils l'ont bien mérité.
Vous l'avez entendu, ça ?
Oui, ça, je l'ai entendu. Ça, ouais. Je l'ai entendu. Donc, effectivement, on est amené à reprendre ça, à montrer le caractère tout à fait intolérable de ce type de remarques et à montrer que, fondamentalement, encore une fois, si on peut ne pas être d'accord et on peut être choqué... par rapport à des caricatures, cela ne justifie nullement le combat par les armes, mais cela justifie le combat par les mots, par les idées.
Vous abordez ces sujets sociétaux avec vos élèves. Le sujet de l'extermination des Juifs, le sujet de la Shoah, vous avez déjà eu l'occasion de l'aborder avec vos élèves ?
Alors, je l'aborde avec mes élèves. Je prends plus précisément un chapitre du livre pour essayer de leur montrer... qu'on peut essayer de penser finalement une philosophie de l'existence et quelque chose du bonheur, c'est très très paradoxal, à partir d'une philosophie de la Shoah, et je m'appuie entre autres sur Primo Levi, sur cette question qui montre justement comment, à partir de son expérience des camps, on peut tirer toute une philosophie de l'existence quotidienne et toute une réflexion autour de l'idée de bonheur et autour de l'idée de malheur. Et donc, je le fais à partir de l'étude d'un chapitre de l'ouvrage que je considère un petit peu initiatique.
Celui de Primo Levi. Voilà. Et si c'est un homme ?
Voilà, si c'est un homme, entre autres. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que très rapidement, ils sont amenés à voir que la Shoah n'est pas un problème purement juif, la Shoah n'est pas un problème purement historique, mais il y a bien quelque chose qui se donne à voir de la condition universelle de l'homme, puisque finalement, très rapidement, on est amené à réfléchir sur le bonheur, sur le malheur, sur la souffrance, sur la construction de soi, sur la relation entre les mots MAUX et les mots MOTS.
D'accord.
Et donc, il y a bien quelque chose qui relève d'une philosophie de la Shoah.
Et c'est ce que vous développez dans votre livre. Alors, cette approche-là, l'approche philosophique d'un sujet extrêmement grave, comme celui de la Shoah, l'extermination des Juifs, est-ce qu'elle ne risque pas de rendre abstrait ce qui est très concret en réalité, l'horreur absolue que représente cette période de notre histoire? Parce que des témoins directs, il n'y en a plus beaucoup. C'est normal.
Bien sûr.
Voilà, le temps passe, les années passent.
Ça dépend ce que vous entendez par abstrait. Si c'est abstrait au sens sujet de pensée, j'essaie de montrer pourquoi la Shoah doit être nécessairement un sujet pour la pensée, parce que quand on étudie la Shoah de très près, ce qui la caractérise finalement, c'est qu'elle relève de processus qui sont rationnels. C'est-à-dire des processus qui sont déterminés par la raison. Mmh. Quelque chose qui fait problème pour le philosophe, et même quelque chose qui fait problème pour la modernité. Donc, une philosophie de la Shoah, à certains égards, est tous sauf abstrait, puisque si elle relève de processus rationnels, bureaucratiques, par exemple, techniques, administratifs, juridiques, alors il faut essayer de voir en quel sens ces processus relèvent finalement, de ce que moi j'appelle un renversement de la raison, d'une raison qui est instrumentalisée, hein, mais qui s'impose comme une fin en soi, parce qu'on ne l'interroge plus. Et donc, dans ces conditions-là, on essaye de montrer finalement pourquoi une philosophie de la Shoah n'a rien d'abstrait, mais relève finalement de quelque chose de concret, au sens où elle engage une réflexion sur la raison et sur la conception que l'Occident se fait de la raison.
D'accord. À quoi vous carburez, dites-moi, Didier ? Parce que prof de philosophie à Louviers, vous êtes engagé également dans l'atelier théâtre, c'est ça ? À Louviers aussi ?
Oui, à Louviers.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous levez et que vous avez envie d'aller bosser ?
C'est pas seulement rationnel, je pense. C'est quelque chose qui relève de ce que Freud appellerait la pulsion de vie. On est nécessairement poussé vers la vie, on est poussé vers la construction de soi, vers l'accomplissement de soi. Et dans cette démarche, dans ce processus, il y a nécessairement... la rencontre de l'autre, on pourrait très bien dire la rencontre de l'homme, de l'autre comme ami. Aristote fait une très belle description de l'amitié, hein, ce miroir de nous-mêmes qui nous renvoie une image de nous-mêmes qui nous permettrait de s'accomplir. Il y a dans la relation philosophique, y compris dans la relation philosophique entre un professeur et ses élèves, quelque chose qui peut relever de l'amitié au sens d'Aristote. Alors si je veux vous répondre d'une manière un petit peu plus abstraite, hein, en faisant référence à votre question précédente, ce qui me force à me lever le matin, finalement, c'est peut-être parce que le sens est une question et que le sens est toujours à accomplir. Le sens constitue une œuvre, l'œuvre de chaque jour, œuvre parfois ratée. Hein.
Est-ce que vous philosophez toute la journée ?
Peut-être pas 24 heures sur 24, mais je remarque que
ça vous arrive
l'activité cérébrale, en tout cas la nuit, est une activité intense. Je n'aurais pas écrit la philosophie de la Shoah sans une activité presque subconsciente ou inconsciente, une activité nocturne où, effectivement, je l'explique dans la préface de ce livre, quelque chose s'est écrit en moi, presque à mon insu, qui était le résultat d'années et d'années de lecture sur le sujet. Donc on philosophe pas tout le temps au sens où on est aussi des corps et qu'on a besoin de superficialité.
Ouais. Mais êtes superficiel parfois ?
Oui.
Ouais.
Oui, complètement. J'aime l'humour rabelaisien. On parlait de Charlie Hebdo tout à l'heure. Donc complètement. J'aime le second degré. J'aime le décalage. Je trouve que effectivement, il y a une forme de philosophie aussi dans l'humour. Donc je vais peut-être chercher de la superficialité par profondeur. Je sais pas. Mais j'aime beaucoup cette phrase de Desproges. L'humour et la politesse du désespoir, où il faut rire de tout et pas avec n'importe qui. Il y a quelque chose qui, finalement, relie d'une manière spécifique dans l'humour. Dans la quête de sens, c'est pareil. Dans la quête de sens, il y a quelque chose qui relie aux hommes d'une manière particulière, et c'est peut-être, finalement, le point commun qu'on pourrait penser entre l'humour et la philosophie.
Et alors, votre plus belle récompense, c'est quand un élève, à l'issue de vos cours, et après les examens, après le bac, vous dit « je vais poursuivre ». Dans cette démarche-là, dans la philosophie. Je vais approfondir tout ça.
Ma plus belle récompense, c'est lorsqu'on m'a dit, c'est arrivé plusieurs fois, y compris pour l'atelier théâtre, « Monsieur, vous m'avez sauvé la vie ». Ça, du point de vue professionnel, je pense que c'est une belle récompense.
Didier Dumarc, comment on trouve vos livres, et notamment Philosophie de la Shoah, qui est paru il y a quelques mois maintenant? On le trouve facilement?
Oui, on le trouve assez facilement. Il est disponible partout. Il est disponible, par exemple, à l'Armitière de Rouen. On peut les saluer en même temps.
Mais donc, évidemment.
Disponible partout, dans les librairies, et sur Internet également, bien évidemment.
Merci beaucoup,
Didier. Merci à vous, Richard.
Dumarc, à très bientôt.
Au revoir.